France Inter.
France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les Côtes d'Armor sont à l'honneur des carnets toute la semaine. Inventaire non exhaustif d'initiatives et de solutions dans ce département breton. Aujourd'hui, je vous emmène à Plaintel, au sud de Saint-Brieuc, une commune qui compte 4 500 habitants et 45 lavoirs. Ces installations en pierre qu'on voit beaucoup dans les villages, et en particulier en Bretagne, sont un vestige d'une pratique disparue, le travail des lavandières qui lavaient le linge à la main. Mais les lavoirs sont aussi aujourd'hui, et on n'y pense pas souvent, des refuges pour la biodiversité. Une association de Plaintel s'est lancée dans la gestion écologique des lavoirs, notamment pour protéger les grenouilles. Et elle pourrait inspirer d'autres communes en France. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
Bonjour Gilles Camberlin.
Bonjour.
Vous êtes le président de cette association Lavoirs et Fontaines. Vous êtes à la retraite après une carrière de naturaliste. Comment est née cette initiative au départ ?
Bien, au départ, je dirais que c'est né de la volonté même de la commune qui avait classé les lavoirs dans son petit patrimoine communal. C'est une démarche originale et tout à fait essentielle parce qu'elle désigne l'intérêt patrimonial de ces petits bâtiments.
Alors, il y a 60 000 lavoirs en Bretagne au total, 14 000 dans les Côtes d'Armor. Est-ce que vous pourriez nous décrire un lavoir pour ceux qui n'en auraient jamais vu, Gilles ?
Alors, un lavoir, c'est alimenté par une source, très souvent, parfois par un ruisseau qui est proche ou qui passe à côté. Et c'est constitué souvent de bassins. Le premier bassin est alimenté par la fontaine, donc par l'eau propre de la fontaine. De ce fait, c'est le bassin où on va rincer le linge après l'avoir lavé. Et le deuxième bassin, c'est celui où on lave le linge. Et ensuite, eh bien, il y a donc l'écoulement vers la rivière.
Depuis quand les lavoirs sont-ils à l'abandon ? Les années 60 à peu près ?
Oui, c'est-à-dire il a fallu l'arrivée de l'eau dans les campagnes. Et puis, la commercialisation de lave-linge.
Donc, c'est un morceau d'histoire, hein, c'est un vestige de la vie quotidienne d'antan, ces lavoirs.
Tout à fait, c'est une histoire en fait récente. Ça fait à peu près 65 ans que ces lavoirs ont été abandonnés. Bon, certains un peu plus tard, parfois même il y a des habitués qui continuent à le faire même encore, mais c'est assez rare. Donc, ils ont été abandonnés il y a 60 ans et depuis, la nature a repris ses droits. La végétation aquatique s'y est développée, des animaux aquatiques s'y développent également. Et en particulier, pour nous, il y a un deuxième objectif, en dehors de la restauration des bâtiments, du bâti, c'est celui de la conservation de cette faune et de cette flore.
Alors, quelles sont les espèces qui aiment justement les lavoirs, Gilles ?
Alors, il y a des insectes aquatiques qu'on connaît dans les mares. Et puis, il y a aussi les amphibiens, c'est-à-dire salamandres, tritons, crapauds, grenouilles. Ces animaux ont comme particularité d'avoir une reproduction en milieu aquatique. Donc, ils passent une partie de leur vie dans l'eau. Et puis après, ils s'en échappent, ils font leur métamorphose vers la forme adulte et ils gagnent la terre ferme.
Restaurer un lavoir, on s'imagine que ça pourrait consister à le nettoyer et donc arracher les plantes aquatiques qui s'y développent. Et ça, c'est une grave erreur, en fait.
Oui, en fait, après 20 ans 60 ans d'existence, les lavoirs se sont dégradés inévitablement. Ce qui était fait en pierre taillée et maçonnée, ben, les joints se sont dégradés. Les lavoirs perdaient de l'eau et donc souvent... leur fonctionnalité n'existe plus. Il y a plus d'eau retenue dans les lavoirs. Et à ce moment-là, la zone humide elle-même disparaît, bien évidemment. Donc la restauration va nécessiter, d'une part, de restaurer tout le système hydraulique, qui souvent est dégradé, bouché ou dégradé, et puis de refaire les maçonneries pour le rendre à nouveau étanche. Or, une des premières difficultés à résoudre, c'est dans quelle période de l'année peut-on faire ce type de travaux ? Bien, les animaux qui se reproduisent dans les lavoirs, en fait, utilisent un lavoir comme une mare permanente, une mare temporaire, qui peut s'assécher l'été. C'est normal, c'est le fonctionnement d'une mare, c'est un écosystème tel que celui-là. Et donc, les animaux vont la quitter en fin d'été, en général, la plupart. Donc c'est à ce moment-là qu'on peut intervenir, c'est là qu'on fera le moins de dégâts, c'est-à-dire entre le mois de septembre et le mois d'octobre en Bretagne.
Et donc arracher les plantes aquatiques, mauvaise idée, vous demandais-je ?
Oui, quand on restaure un bâtiment maçonné comme ça, inévitablement, on va être contraint d'en enlever. Mais à ce moment-là, on en récupère une partie pour pouvoir la réintroduire dans le lavoir après le nettoyage. Donc, première attention. La deuxième, c'est lorsque le lavoir est en eau, qu'on n'a pas de raison d'y intervenir. Il faut absolument éviter de retirer la végétation parce que c'est le milieu de vie d'énormément d'espèces, parfois microscopiques, et toute une chaîne de vie qui en dépend. Et les tritons et les têtards vont se nourrir de ces petits animaux qui se réfugient dans les plantes et qui s'y développent. Pour eux-mêmes, c'est un lieu de refuge, ils s'y cachent. Et donc, c'est vital, je dirais, pour la conservation de la faune, de ne pas perturber la végétation.
Vous avez édité un guide avec le soutien de la Fondation du patrimoine pour la restauration des lavoirs en Bretagne. Quels sont les pièges à éviter ?
Les pièges, c'est de faire des interventions à la mauvaise époque, c'est-à-dire d'intervenir sur les parties en eau uniquement en septembre-octobre. Le deuxième, des choses toutes banales, c'est d'organiser la restauration de telle manière que l'écoulement de l'eau permette de maintenir le lavoir complètement plein. C'est-à-dire que un des gros problèmes que posent les lavoirs, ils ont des berges verticales, évidemment, sont des maçonneries, et les animaux ne peuvent pas grimper sur des surfaces lisses. Donc il faut que l'eau arrive au ras de l'angle de la margelle, c'est-à-dire la dalle qui borde le lavoir. C'est rien, c'est simplement un réglage à faire, mais il faut y penser.
Est-ce que ça suscite, comment dire, l'incompréhension d'une partie de la population ? Parce que c'est vrai qu'un lavoir sur lequel la nature a repris ses droits, ça peut sembler sale ou mal entretenu à certains.
Oui, pour les personnes âgées qui l'ont connu fonctionnant pour laver le linge, c'est souvent une surprise de voir des lavoirs envahis de végétation, parce que ils ont l'image d'un lavoir qui était nettoyé avant de le mettre en service. Pourtant, il faut faire comprendre qu'un lavoir, ça n'est pas une piscine, qu'avec le temps, la végétation se développe et qu'elle est nécessaire et indispensable pour la vie dans ce lavoir. C'est devenu une zone naturelle en tant que telle. C'est à nouveau une mare temporaire. Et écologiquement parlant, on peut comprendre que c'est un objectif majeur.
Et d'ailleurs, les espèces qui s'y reproduisent sont la plupart du temps menacées.
Oui, menacées. Et les amphibiens sont toutes des espèces protégées. C'est-à-dire que leur destruction, leur capture... sont interdites. Donc ça nous oblige, nous, à respecter et à prendre des précautions pour éviter de perturber leur reproduction et de nous assurer que ces espèces continuent à fréquenter ces lavoirs. Donc on fait des recensements tous les ans au mois de mars quand les adultes regagnent les lavoirs pour savoir quelles espèces viennent dans quel lavoir et est-ce que leur reproduction se passe bien.
Donc vous comptez les têtards ?
On compte les adultes, les têtards c'est difficile,
oui.
Mais les adultes oui, et on vérifie qu'il y a effectivement des larves, que la reproduction est réelle.
Quels sont les besoins de votre association aujourd'hui, Gilles ?
Écoutez, on est 30 adhérents, c'est un bon nombre, et les gens sont très actifs. Il y a des gens de tout âge, il n'y a pas que des retraités, il y a des jeunes aussi. Les jeunes, ils ont leur vie, ils changent de vie souvent. Donc ça, il y a un brassage dans le nombre des adhérents. Et c'est le renouvellement qui est important. Qui est important aussi parce que il n'y a pas seulement la restauration, mais il y a l'entretien. L'entretien, ça veut dire entretenir une végétation préalable autour du lavoir quand on le peut. Ça veut dire faire des fauches. Et ça, c'est un gros travail. On en fait deux par an, fin juin, début juillet, là où l'impact est mineur sur la végétation des prairies, et puis en septembre-octobre, pour éviter l'enfrichement et le développement de ligneux. Et bien ça, c'est un travail qui est très prenant. Vous imaginez, on a restauré 21 lavoirs, il faut faire deux passages, ça fait une quarantaine d'interventions. Sans les voisins qui nous aident, on ne pourrait pas y arriver, quoi.
Est-ce que vous auriez envie de faire des émules et qu'il y ait des associations comme la vôtre partout en Bretagne et même partout en France ?
Bien sûr, comme vous l'avez dit vous-même, de l'ordre de 57 000 lavoirs en Bretagne, on comprend que ça fait autant de zones humides. Donc potentiellement, c'est une ressource pour la conservation de nos amphibiens, et pas que des amphibiens, il y a aussi toute la faune aquatique qui les accompagne. Donc c'est une source de biodiversité essentielle qu'il faut restaurer, parce que beaucoup, quand on fait le recensement dans une commune, on s'aperçoit que beaucoup sont en mauvais état. Sur notre commune, il y en avait un tiers qui était hors de fonction complètement, qui était à sec. Un tiers qui était plus ou moins bien en bon état, parce qu'ils avaient déjà été restaurés un peu par la commune. Et puis, un petit quart qui fonctionnait bien, mais ça se dégrade très vite. Donc, il y a du travail partout. Et souvent, c'est méconnu, parce que il n'y a pas d'inventaire qui a été fait. Et sur les très vieux lavoirs, c'est-à-dire ceux qui n'étaient même pas maçonnés, c'est-à-dire ceux qui ont été créés avant le 19e siècle, c'était des lavoirs constitués simplement de grosses roches assemblées près d'une mare. Et cela, pour les retrouver, il faut avoir un témoignage et c'est très difficile à retrouver.
En tout cas, les lavandières, il y a un siècle, n'auraient jamais pu imaginer ce que deviendraient les lavoirs aujourd'hui.
Ah ben oui. Mais c'est très important ce témoignage de lavandière ou de leur petite fille qui venait. On en a recueilli quelques-uns. Ça permet de montrer que c'est une réalité et puis de rappeler la difficulté du travail. Une lavandière, elle faisait trois fois l'aller-retour au lavoir dans une journée avec une brouette chargée de linge, mais qui était aussi mouillée. Donc il fallait remonter les pentes. C'était un travail éprouvant. On imagine mal. Mais c'était aussi un lieu de rencontre, de bavardage, d'échange, dont toutes les dames qui l'ont utilisé en témoignent et racontent l'intérêt qu'elles y ont trouvé. C'était le lieu de rassemblement au niveau du village.
Voilà, l'association Lavoirs et Fontaines, basée à Plaintel, dans les Côtes d'Armor, a besoin de renfort et l'appel est lancé. Merci beaucoup Gilles Camberlin.
Merci.
Et bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Un coup d'œil à la boîte mail des carnets de campagne. Nous recevons de très nombreux messages. Voici celui de Michel Éric pour présenter l'association Émeraude Transition Énergétique, qui est basée à Lancieux, commune du littoral costa-armoricain à la lisière de l'Ille-et-Vilaine. Cet asso a pour objet, au sein du nouveau parc naturel régional Vallée de la Rance, Côte d'Émeraude, créé en 2024, de sensibiliser aux enjeux énergétiques et d'accompagner les particuliers dans leurs projets de rénovation thermique, de logement ou d'installation d'énergie renouvelable. Et cet auditeur de mettre en avant deux projets récents de son association. Un calendrier de l'Avent pour Noël 2025 a été conçu par un couple d'adhérents pour une sobriété joyeuse. Les éco-boys et les éco-girls du calendrier mettent en œuvre des éco-gestes. Toutes les associations qu'ils souhaitent peuvent se procurer un calendrier de l'Avent à prix coûtant pour les offrir ou pour les vendre. Deuxième projet, une AMEP, association pour la mutualisation d'une énergie de proximité, vient d'être créé pour offrir gratuitement le surplus d'électricité produite par des panneaux solaires à des personnes en précarité énergétique qui vivent dans un rayon de 10 km autour de Lancieux. Association Émeraude Transition Énergétique, c'est donc à Lancieux dans les Côtes d'Armor. Vous trouverez un lien vers leur site sur le site de France Inter, rubrique carnet de campagne. Et nous restons sur la Côte d'Émeraude, mais bien plus à l'ouest, à Lannion, avec le message de Laurence que voici. En France, un établissement de restauration collective servant 100 repas par jour produit chaque année plus de 3 tonnes de biodéchets. Près de 30% de la nourriture préparée en restauration collective finit en biodéchets. Notre entreprise de l'économie sociale et solidaire, basée à Lannion, qui s'appelle Émeraude Création, a développé l'Émeraude Station. Nous commercialisons une station de pré-compostage innovante, 100% naturelle, rapide et économique. L'Émeraude Station permet de valoriser sur place les biodéchets, qu'ils soient d'origine végétale ou animale, épluchures, restes alimentaires, viande ou poisson. En seulement 2 semaines, grâce à un procédé aérobie breveté, le volume des déchets est réduit de 60%, produisant une matière stabilisée prête à être utilisée comme compost. Conçue et fabriquée en France, l'Émeraude Station est particulièrement adaptée aux collectivités, aux restaurants collectifs, aux EHPAD, campings et établissements de restauration. Elle ne nécessite aucune source d'énergie externe, ce qui en fait une solution économique et écologique. Cette solution innovante favorise aussi l'emploi des personnes en situation de handicap. Émeraude Création, c'est donc à Lannion, dans les Côtes d'Armor. Enfin, je vous lis le message de Sophie, auditrice de Saint-Brieuc. Je suis membre d'une épicerie participative et collaborative basée à Saint-Brieuc, la Briochaine. Une épicerie créée par des citoyens sur le modèle Mon Épi, qui propose des produits de qualité, sains, locaux et à prix réduit. Nous venons de nous installer dans le quartier des Villages, à l'ouest, quartier à l'ouest de Saint-Brieuc, avec une AMAP dans un bar PMU repris par des jeunes. C'est un événement hein, pour ce quartier où un supermarché a fermé ses portes l'an dernier. Notre asso compte 56 adhérents et avec ce nouveau lieu, nous espérons mélanger les publics. La Briochaine, épicerie participative à Saint-Brieuc, quartier des Villages. J'ajoute que le maire de Presles, village du Vercors, a reçu déjà quelques candidatures suite à la petite annonce que j'ai relayée à ce micro. Il cherche un ou des volontaires pour gérer le café, restaurant, épicerie communale qui va ouvrir à Presles, histoire de créer un lieu de vie dans ce village qui n'avait aucun commerce. Vous avez jusqu'au 30 septembre pour postuler et le contact est à retrouver sur notre site.